lion, il ne sait quand il les reverra. La vision de sa belle-sœur a failli gâcher son mariage. Anna et lui vont partager leur première nuit. Aucune autre pensée ne doit le traverser. Plus tard, serrant dans ses bras le corps de sa jeune femme, Maxime se fera violence pour ne pas saisir dans ses mains les boucles de Tania, pour ne pas mordre sa bouche. Maxime et Anna sont mariés femmes depuis quelques mois. De temps à autre, Maxime pense à Tania, qu'il n'a pas revue depuis le jour de son mariage. Mais Anna suffit à remplir sa vie. Il travaille dans le magasin de son père, sa femme l'y rejoint le lundi, jour d'affluence où les détaillants viennent se fournir. Le reste du temps, elle regarde son ventre s'arrondir. L'enfant qu'il désire sera là au printemps. Ils vivent dans un petit appartement de l'avenue Gambetta, dont le balcon surplombe le Père-Lachaise. Chaque dimanche, Anna accompagne Maxime au stade, elle se montre une partenaire honorable au tennis. Le reste du temps, elle s'installe sur la pelouse pour tricoter ou lire à l'ombre des grands arbres. Simon vient au monde au début du printemps, vigoureux, hurlant à plein poumon. On lui donne Joseph pour second prénom. Lorsque le médecin suspend le bébé à ses deux pouces pour tester ses premiers réflexes, Maxime imagine son fils aux anneaux. Il veut se reconnaître dans la ligne de ses sourcils, dans son menton volontaire. Une nouvelle existence commence pour eux trois. Simon se développe parfaitement, il dort bien, fait preuve d'un appétit féroce, sourit à tous. Il lui reste 8 ans à vivre. Quelques mois plus tard, Robert et Tania leur rendent visite. Avant leur arrivée, Maxime se sent anxieux. Mais il est vite rassuré. Toujours aussi ravissante, Tania se montre naturelle avec lui, s'émerveillant devant le nouveau-né. Une après-midi passée en sa compagnie devant le berceau de Simon suffit à le détacher de cette image idéale. Son fils l'accapare et le reste passe au second plan. Anna rit avec son frère qui la taquine, Robert semble heureux, il tient souvent Tania par la taille. Maxime remarque cependant que celle-ci ne s'est pas arrondie. Le dimanche, Anna installe Simon dans un couffin à l'ombre d'un marronnier, entre les cours de tennis et le gymnase. De temps en temps, luisant de sueur, une serviette nouée autour du cou, Maxime caresse la joue de son fils, embrasse sa femme, puis disparaît. Il attend avec impatience le moment d'initier Simon à toutes ses disciplines, de l'emmener sur le tapis de lutte, de le saisir par la taille pour l'accrocher à la barre fixe. Simon a connu lui aussi le magasin de la rue du Bourg-l'Abbé. Il a grimpé l'escalier, couru dans le couloir de l'immeuble, exploré les réserves. Sans doute, comme moi, s'est-il construit des abris avec les cartons vides qui s'entassaient dans chaque pièce. Il a joué à tenir la caisse, aider à servir les clients, geste que j'ai répété sans le savoir. Dans le cabinet de Louise, assis devant le même chocolat, il a raconté ses soucis et ses rêves. Mais avait-il des soucis? Contrairement à moi, il ne souffrait pas d'un corps qui le trahirait sans cesse. Il ne se leurrait pas lorsqu'il lisait l'admiration dans les yeux de son père. Jusqu'à ce que la menace frappe à la porte de l'appartement de l'avenue Gambetta, les premières années de Simon se sont déroulées dans l'insouciance. Louise m'en a apporté le témoignage, donnant de la chair au petit fantôme. L'ombre de la guerre se rapproche. Maxime et Anna vivent au rythme des événements qui bouleversent l'Europe. Joseph garde l'oreille collée au poste, lit tous les journaux. Les brimades qu'il a subies en Roumanie l'ont poussé à l'exil, et plus que d'autres, il est attentif à la vague brune qui s'étend au-delà des frontières. Maxime le lui répète sans cesse, ils sont en France, patrie de la liberté, rien de semblable ne peut y être envisagé. Il n'aime pas cette lueur de crainte dans les yeux de Joseph. Il lui est insupportable de voir ses épaules se voûter. Il lui arrive de brusquer son père, de se moquer de ses inquiétudes. Bien sûr, on tient Simon à l'écart de ses discussions, on éloigne les ombres de lui, il est aimé, entouré de sollicitude. Le monde l'assure de sa protection, les passants lui sourient. Comment un tel univers pourrait-il basculer, lui devenir hostile? Comment ces adultes bienveillants pourraient-ils un jour devenir ses persécuteurs, le bousculer, le précipiter dans un wagon rempli de paille, le séparer d'Anna? Les journaux rendent compte des grandes messes qui se déroulent au-delà des frontières. Les magazines en publient les photographies. Et lorsque par-dessus l'épaule de ses parents, il regarde ses alignements impeccables, ses torchères, ses bannières claquant au-dessus de foules en grand uniforme. Ébloui, il ouvre de grands yeux. Jour après jour, au fil de nos rendez-vous, Louise tournait pour moi les pages d'un livre que je n'avais encore jamais feuilleté. J'entrais avec elle dans la tourmente que mes parents avaient traversée en sa compagnie. Elle remplissait à ras-bord son verre de liqueur, tirait sur chacune de ses cigarettes jusqu'à s'en brûler les doigts. Lorsque la clochette de sa porte annonçait l'arrivée d'un client, elle soupirait, se levait à regret et me demandait de patienter. Elle expédiait ses rendez-vous et me rejoignait pour reprendre le fil de son récit qui allait nourrir le mien. L'Autriche est annexée, la Pologne envahie, la France entre en guerre. Les pages défilent, victoire de l'Allemagne nazie, signature de l'armistice, instauration du régime de Vichy. Des noms claquent, criés dans les rues par les vendeurs de journaux. Des visages s'affichent, auxquels la France va confier sa destinée. On voit défiler des chars, des troupes de conquérants descendre au pas de loi les Champs-Élysées. Sur la terrasse du Trocadéro, un homme en grand uniforme, les mains dans le dos, contemple la tour Eiffel d'un œil de propriétaire. Le mal se répand. En quelques mois, les valeurs s'inversent, et les figures jusque-là familières deviennent l'incarnation du danger. Ceux qui assuraient la sécurité, réglaient la circulation, tamponnaient les papiers officiels, deviennent les auxiliaires zélés d'un projet implacable, fonctionnaires dont la simple signature peut bouleverser un destin. L'ennemi n'est plus seulement reconnaissable à ses uniformes verts de gris, à ses longs imperméables. Il peut aussi se dissimuler sous les manches de lustrine des employés de mairie, sous la pèlerine des sergents de ville, sous l'autorité des préfets, et jusque dans le regard amical des voisins. Le gros autobus à plateforme qui transportait les citadins à leur travail déposait ses voyageurs devant jardins et cinémas, va s'alourdir de cargaisons d'hommes et de femmes chargées de baluchons. La 15 chevaux, qui emmenait des familles heureuses sur la route des vacances, s'arrête désormais au petit matin devant les porches des immeubles pour y semer la terreur. Un jour, Maxime trouve Joseph appuyé au comptoir, le visage défait. Gaston, le manutentionnaire du magasin, vient d'accompagner Timo, l'employé yougoslave du grossiste de l'immeuble voisin, au gymnase Japy, où le jeune homme devait répondre à une convocation. Gaston en est revenu seul, chargé de rapporter à son ami des objets de première nécessité. Des bruits courent sur ces premières arrestations. Les malheureux seraient retenus dans ces lieux transformés en centres de rassemblement. Joseph y voit les premiers signes d'une persécution qui va se généraliser. Il le sait, l'a répété à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Ce qu'il a fui en Roumanie va se répéter. Déjà en Allemagne, la nuit de cristal, puis l'instauration du statut des Juifs, lui ont laissé envisager le pire. Mais on ne veut pas l'écouter. Dans le quartier, on parle de rafles qui se généralisent. Maxime tente encore une fois de rassurer son père. Ce n'est pas à cause de ses origines juives que Timo est inquiété, mais en raison de son statut d'étranger. On sait par les journaux et les radios que la politique d'épuration vise à expulser de France tous ceux qui n'ont pas été naturalisés. Joseph et sa famille sont français depuis plusieurs dizaines d'années. Qu'aurait-il à craindre ? Maxime fait la sourde oreille. L'inquiétude des voisins l'agace. Il n'aime pas ses yeux larmoyants, ses mains qui se tordent. Il reçoit froidement ses timorés, les éconduit parfois brutalement. Il veut encore croire à l'impossible. Comme beaucoup d'autres, il a entendu le récit d'enlèvement au petit matin. Il est au courant des opérations organisées pour nettoyer le pays des éléments indésirables. Mais il persiste à croire que ces mesures visent Polonais, Hongrois, Tchécoslovaques, apatrides, réfugiés depuis peu, parlant à peine le français, orthodoxes qui n'ont rien changé à leur mode de vie et créé une véritable enclave au cœur de Paris. Il n'ignore pourtant pas que la menace se rapproche. Elle a pris le visage de celui que l'Allemagne a hissé au pouvoir. Il ne peut se défaire de l'image du pantin sinistre dont les vociférations lui ont rendu odieuse une langue qui jusque-là l'avait bercé de ses leaders, de ses opéras, l'avait nourri de sa littérature et de sa philosophie. Les pages tournent de plus en plus rapidement, leurs images gagnent en précision. On y voit des files d'attente, des ménagères qui patientent une matinée entière pour payer à prix d'or une viande de dernière qualité, quelques légumes jusque-là méprisés, et du pain qu'il faudra trancher le plus finement possible. Mais surtout, elle donne raison.